Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Abidjan, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes en Égypte. 6 policiers et un officier ont été tués dans une attaque djihadiste mardi soir près d'Al-Arish, dans le nord du Sinaï, région où sévit une insurrection islamiste. C'est ce qu'annonce un communiqué du ministère égyptien de l'Intérieur ce mercredi. La nouvelle attaque intervient en pleine Coupe d'Afrique des Nations de football en Égypte, où les stades utilisés ont été placés sous haute sécurité et se trouvent à bonne distance du nord Sinaï. 4 assaillants ont également été tués lors des accrochages qui ont suivi l'attaque. Afrique de l'Ouest maintenant, Gambie, l'ex-président Yahya Jammeh est accusé par 3 Gambiennes de les avoir contraints à des relations sexuelles en usant de pression morale, financière ou physique alors qu'il dirigeait le pays. C'est ce que révèle un rapport de Human Rights Watch présenté ce mercredi au Sénégal. Yahya Jammeh a traité les femmes gambiennes comme ces choses, a déclaré à Dakar Reed Brody, le célèbre avocat américain de l'Organisation de défense des droits humains basée à New York, en soulignant que le viol et l'agression sexuelle sont des crimes et que Yahya Jammeh n'est pas au-dessus de la loi. L'ex-président Jammeh a dirigé la Gambie d'une main de fer de 1994 jusqu'à son départ pour la Guinée équatoriale le 21 janvier 2017 sous la pression d'une force militaire régionale. Les défenseurs des droits humains accusent son régime notamment d'avoir torturé des opposants et des journalistes et procédé aussi à des exécutions extrajudiciaires et des détentions arbitraires. Yahya Jammeh est en outre soupçonné d'avoir détourné plusieurs centaines de millions de dollars. La commission Vérité et Réconciliation qui enquête en Gambie sur les crimes présumés du régime Jammeh a entamé début juin sa 5e session d'audition. Elle prévoit d'organiser des séances consacrées aux violences sexuelles dans les prochains mois. Politique en Mauritanie, une centaine d'étrangers ont été arrêtés dans le pays lors des manifestations qui ont éclaté après l'annonce de la victoire du candidat du pouvoir Mohamed Cheikh El Ghazouani à la présidentielle de samedi. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Intérieur alors qu'Internet est entièrement coupé depuis mardi après-midi. Les ambassadeurs du Sénégal, du Mali et de la Gambie ont été convoqués hier par le ministre des Affaires étrangères Ismaël Ould Cheikh Ahmed, qui les a enjoints de demander à leurs ressortissants de s'abstenir de participer aux manifestations et à tout ce qui perturbe l'ordre public en Mauritanie. Crise migratoire, l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, dit avoir secouru la semaine dernière plus de 400 migrants dans le désert au Niger. Sur sa page Facebook, hier, l'OIM affirme aussi avoir porté secours à près de 20 000 migrants dans le Sahara depuis avril 2016. Les bénéficiaires de cette assistance récemment sont souvent des ressortissants ouest-africains expulsés d'Algérie vers le Niger. Pour plus d'explications, Abdourahmane Dia a rejoint le chef de mission de l'OIM au Niger, Martin Wiss.
Le gros de nos opérations se résumait en parlant d'aider et de sauver les gens qui arrivent depuis l'Algérie sur un endroit qui s'appelle Point Zéro, 12,5 kilomètres de petit endroit qu'on appelle Assamaka, et le seul poste frontalier entre le Niger et l'Algérie. Et là, 90% de tous les migrants qu'on appuie et qu'on aide et qu'on sauve.
Alors ce sont des migrants qui ont été expulsés d'Algérie vers le Niger?
C'est vrai, c'est correct, exact.
Et
exact.
Abandonnés à eux-mêmes dans le désert?
C'est exact.
Quand même, 20 000 personnes secourues depuis 2016, c'est beaucoup. Qui sont ces migrants? De quelle nationalité ils sont pour la plupart?
C'est une bonne question. La grande majorité, ce sont des ressortissants de la CEDEAO. D'ailleurs, dans les statistiques normales, on exclut les Nigériens, pas complètement, mais parce qu'il y a en parallèle, il y a un système qu'on appelle les convois officiels. Ce sont des rapatriements organisés entre l'Algérie et le Niger, spécifiquement pour les Nigériens. Donc, pour répondre à votre question, l'année dernière, 2018, il y avait 38%. Tous ceux qu'on a appuyés, c'était des Maliens. Et 30 et quelques pourcents, je ne me souviens plus, 33-34%, c'était des Guinéens de Guinée-Conakry. Selon nos informations, et moi j'ai parlé personnellement avec ces gens, pas tous évidemment, mais avec beaucoup, géographiquement, ça ne fait aucun sens que ces gens du Guinée-Conakry ou du Mali soient entrés en Algérie à travers le Niger. Donc là, il y a un point d'interrogation.
Et qu'en est-il aujourd'hui de la route vers la Libye? Est-ce qu'il y a moins de trafic, si on peut dire ainsi?
Oui, on peut dire ainsi. Et en ce qui concerne nous, les gens qu'on secourt, la vaste majorité sont des gens qui vont dans la direction opposée, soit ils viennent du nord pour rentrer chez eux dans le sud.
Martin Ruiz, joint au Niger par Abdourahman Dia.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Afrique centrale, incident impliquant des Camerounais dans un grand hôtel de Genève en Suisse, où séjourne actuellement le président du Cameroun, Paul Biya. Des échauffourées ont eu lieu mardi entre une quarantaine d'opposants camerounais et les membres des services de sécurité présidentiel du Cameroun dans le lobby de l'établissement, selon les déclarations de la police et des médias suisses ce mercredi. Les opposants camerounais manifestaient contre le gouvernement actuel du Cameroun, a déclaré le porte-parole de la police genevoise, Jean-Philippe Brandt. Selon le journal suisse La Tribune de Genève, il s'agissait d'opposants camerounais exilés venus protester contre le séjour du chef de l'État camerounais en Suisse. Le quotidien a précisé que le président Biya, âgé de 86 ans et qui dirige le Cameroun depuis 1982, est arrivé dimanche à l'hôtel intercontinental. L'ambassade du Cameroun à Berne a de son côté fait part de son inquiétude au sujet d'une violente manifestation prévue à Genève samedi par des Camerounais exilés dans différents pays européens pour protester contre la présence du chef de l'État. République démocratique du Congo, les FARDC, l'armée nationale congolaise, annonce avoir tué 16 miliciens dans deux offensives contre des positions d'un groupe armé dans l'Ituri, province de l'Est du pays. Récemment, au moins 160 personnes y ont perdu la vie dans des violences intercommunautaires qui ont fait des centaines de milliers de déplacés. John Lennon.
Selon le lieutenant Jules Tigoudi, porte-parole de l'armée à Ituri, une double attaque a été menée sur des positions des assaillants dans deux villages du secteur de Walindupitsi, causant la mort de 16 assaillants. Selon lui, les opérations sont concentrées autour de la localité de Gbagdouma. Du 10 au 12 juin dernier, des violences ont fait au moins 160 morts dans le territoire de Djougou, selon le bilan des autorités de la province, et 300 000 personnes ont fui les affrontements. Une situation déplorée par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. L'Ituri avait été le théâtre d'un conflit entre les communautés Emma, composées d'éleveurs, et les Lendu, regroupant des agriculteurs. Ce conflit avait fait des dizaines de milliers de morts entre 1999 et 2003 dans cette province frontalière de l'Ouganda et du Soudan du Sud. L'Ituri est aussi touchée par l'épidémie d'Ebola qui a déjà fait plus de 1500 morts, principalement dans la province du Nord Kivu.
Moyen-Orient, la tension sur le dossier iranien est encore montée d'un cran avec l'annonce par Téhéran que l'Iran comptait s'affranchir encore plus de l'accord de 2015 sur le nucléaire, sur fond de surenchère avec les États-Unis. Les précisions de Jean-Roger Bion.
L'Iran a décidé qu'à partir du 7 juillet, il réduira résolument ses engagements pris dans le cadre de l'accord de Vienne sur le nucléaire, a déclaré l'amiral Ali Shamkhani, le secrétaire général du Conseil suprême de la sécurité nationale. L'Iran a indiqué en mai qu'il cesserait de se sentir tenu par les limites que cet accord impose à ses réserves d'eau lourde et d'uranium enrichi. À ce titre, le seuil limite de réserve d'uranium enrichi doit être symboliquement franchi demain jeudi. L'amiral Shamkhani évoque la lassitude de Téhéran vis-à-vis des promesses des Européens qui disent vouloir sauver l'accord depuis le retrait unilatéral des États-Unis en mai 2018, mais peine à trouver les moyens de cette ambition. La décision de Téhéran intervient dans un contexte d'extrême tension avec Washington, que l'Iran a accusé mardi d'avoir fermé de façon permanente la voie de la diplomatie au lendemain de l'annonce de nouvelles sanctions américaines. Pour le président Donald Trump, cette réaction de Téhéran à ces sanctions est insultante et il a menacé d'oblitérer une partie de l'Iran s'il attaquait tout ce qui est américain.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.